France Culture.
Les nuits de France Culture.
C'était le 31 décembre 1984. Pour fêter le passage à une nouvelle année, Laure Adler et l'équipe des Nuits Magnétiques offraient aux auditeurs de France Culture le premier volet d'un long reportage enregistré à New York quelques semaines plus tôt, au moment de Thanksgiving. Cette virée américaine ne devait rien au hasard. Elle avait été pensée comme un lointain écho à la série d'émissions qui avait constitué les premières de ces Nuits Magnétiques 7 ans plus tôt, presque jour pour jour, New York, Moyen-Âge. Retour à New York donc, pour célébrer dignement ce 7e anniversaire radiophonique dont on dit qu'il marque l'âge de raison. Et en guise de cadeau, une balade à la rencontre d'une ville tiraillée entre les réjouissances familiales de Thanksgiving et les lumières, les clichés, les mondanités de la vie nocturne et ses grands restaurants. Quelques instantanées radiophoniques d'une ville-monde au milieu de laquelle trône déjà la Trump Tower de celui qui n'est encore qu'un milliardaire ambitieux. Voici donc Le Mangeur américain, premier volet d'une série diffusée dans la Nuit Magnétique intitulée Le Voyage américain. C'était le 31 décembre 1984.
C'est toujours un peu sauvage ici. New York est une ville sauvage. C'est une ville insolite, tout à fait différente des autres villes. Ça appartient à personne, à rien. C'est un centre culturel qui est vraiment... Ça pourrait être n'importe où sur une île déserte, mais c'est différent des autres pays. Il est difficile d'aimer New York au commencement, mais au fur et à mesure qu'on habite ici, on commence à tomber amoureux de la ville. Parce qu'il y a à tout moment de très grandes surprises. Ça change d'heure en heure. C'est une aventure sans pareil, tous les jours.
New York, le bonheur des clichés, sensation du déjà-vu, image des feuilletons télé qui se télescopent avec ce que l'œil découvre. On a envie de dire sans arrêt, c'est comme au cinéma. Les gratte-ciels sont vraiment hauts, les taxis sont vraiment jaunes, les publicités vraiment géantes. Fin novembre 84, sur la 5e avenue. Petit Papa Noël devant la Trump Tower, pianiste mélancolique à l'intérieur de la Trump Tower. Dans la vitrine de Bloomingdale, une poupée, habillée d'une robe dorée, tient sur son épaule une caméra vidéo qui filme les badauds en train de la regarder. Chez Saks, on vend des ours en pluche à 1 200 $. Chez Schwartz, des Cadillacs miniatures à 1 300 $. God bless America. À chaque coin de rue, l'armée du salut. Partout, des couronnes de sapins, des entrelacs de paillettes dorées. Écho des sirènes. Bonheur de l'été indien. Nuit magnétique, 31 décembre 84. New York numéro 1, en stéréo, Le Mangeur américain. Soirée bien arrosée, avec Michel Fitoussi, chef cuisinier du Palace new-yorkais, et Alex Zoghi, théoricien de Molière, esthète devant l'éternel, grand penseur du Château Margaux et meilleur spécialiste du canard aux fruits. Description du paysage de sa fenêtre au 18e étage.
On voit beaucoup de toits. On voit parmi les plus beaux bâtiments de New York, surtout la nuit splendide parce que tout est illuminé en plusieurs couleurs, toujours les couleurs des fêtes. Maintenant, pour Thanksgiving, l'action de grâce. Tout est orange, rouge, les couleurs de l'automne. C'est-à-dire, c'est une fête continuelle ici. Cette partie de la ville est vraiment fascinante historiquement. Il y a beaucoup de gens très célèbres qui ont vécu par ici. Même ce bâtiment où j'habite est plein d'acteurs et d'écrivains. Souvent, on ne sait même pas qu'ils habitent ici. Parce qu'il y a une chose à New York que vous n'avez peut-être à Paris aussi, mais beaucoup plus ici. On est tout à fait anonyme, isolé. Les gens qui viennent ici pour la première fois se plaignent toujours de cet isolement, cet ennui, cette solitude affreuse qu'on trouve à New York. À New York, par exemple, on peut ne pas voir ses amis pendant très très longtemps. Ici, on est isolé. Les gens ici travaillent. Ils travaillent beaucoup. Ils sont très ambitieux. Ils veulent arriver. C'est peut-être la ville la plus ambitieuse qui existe. Alors, il n'y a pas une seule personne qui soit vraiment libre. Ils créent le moment spécial pour être libre. Par exemple, demain, c'est Thanksgiving. C'est peut-être le moment le plus chaleureux de l'année. Parce qu'à Noël, je trouve que New York est impossible. À Noël, les gens sont très angoissés. Ils ont peur et leur solitude pèse encore plus lourd. Mais à Thanksgiving, c'est le moment le plus amoureux, je trouve, de toute l'année. Le moment où tout le monde aime tout le monde et où on passe beaucoup de temps avec les autres à manger, à se distraire. Et une sorte de trêve tout à coup. On a quelques heures pour être vraiment avec les autres. C'est un peu la poésie de New York. La cuisine new-yorkaise existe beaucoup maintenant. C'est un mélange de beaucoup de choses différentes. Je crois que c'est vraiment Go et Mio qui ont tout créé, en un sens, parce qu'ils ont lancé cette nouvelle cuisine qui est morte en France, mais qui existe toujours ici. À New York, c'est plutôt la cuisine de tous les pays. Mais récemment, je crois qu'on n'a jamais eu autant de nouveaux restaurants que maintenant. C'est vraiment une sorte de d'éruption de restaurants. C'est presque une... C'est-à-dire, les gens ne vivent pas chez eux. Ils veulent quitter chez eux pour aller quelque part, pour voir quelque chose. Il y a maintenant beaucoup de très beaux restaurants. Souvent, le décor est plus intéressant que ce qu'on mange. Mais en général, ce qu'on mange, c'est toujours un mélange. Comme on a, je ne sais pas si vous connaissez Tex-Mex, la cuisine du Mexique et aussi de Texas. Oui, Tex-Mex, il y a de merveilleux exemples. Mais c'est une vraie cuisine, mais c'est un mélange, toujours un mélange de genres. Il y a Asia Cuba, il y a... et aussi, il y a très... Par exemple, il y a des restaurants, c'est à mourir de rire, où on a une cuisine japonaise avec des plats italiens. Il y a, par exemple, des restaurants chinois où on peut manger des desserts occidentaux. Tout est mélangé. Et il y a vraiment des restaurants très purs aussi, des temples de gastronomie, ça existe aussi. Mais maintenant, c'est une grande aventure. Et certains plats sont aimés, c'est-à-dire les gens tueraient pour avoir le meilleur canard laqué ici. Ils adorent cela, ils adorent... Par exemple, il y a tout près de chez moi un merveilleux restaurant qui s'appelle 14, un bistrot 14. Et quand je suis entré, je regardais, j'ai vu, mon Dieu, c'est la carte de Lippe à Paris. Et je leur ai dit, mais ça c'est la carte de Lippe volée. Alors ils ont dit, oh mais Lippe, qu'est-ce que c'est? Après ils m'ont montré, ils ont ri parce qu'ils ont, ils ont des cartes de Lippe. C'est pas exactement la même chose. Mais les gens adorent les cassoulets, les choucroutes, la bonne chair de partout. Alors, surtout, il y a un amour des bistrots de Paris qui est invraisemblable. Tout le monde cherche des bistrots où on peut manger comme on a mangé il y a 20 ans peut-être à Paris, pas comme on mange maintenant.
Fucking shit, I'll let you the mail. Come here. It's a tristerno, that thing is fucking burning here.
Let's open it up.
They told me before you left. Okay. I shut them off. Smell it. Maybe the stuffing is dead. 5 minutes, I put the kitchen. They told me you let them up.
Alors vous nous lisez votre menu.
Je vais vous lire mon menu. Hein. Alors c'est à moitié américain, à moitié français. Vous voyez, j'ai fait une tartelette d'escargot. Ça, c'est bien français. On a une petite salade pour les gens qui ne veulent pas manger. Hein. Alors là, j'ai des endives, de la salade rouge, des feuilles rouges et de la mâche de France. Après ça aussi, pour les gens qui ne veulent pas trop manger, j'ai fait une asparagus avec une corne en pâte feuilletée et avec une sauce hollandaise. Et là, c'est américain. Alors, j'ai fait une soupe de petits ronds, de citrouille. Et puis, des huîtres et des clams. Je fais des petits faisans.
Avec, petits bébés faisans.
Avec des pâtes aux œufs. Et du basil. Et après ça, j'ai du chevreuil, grand veneur, avec des spetzels. Après, je vous fais un saumon grillé avec une sauce sorrel sur le côté. Ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas trop manger, voilà. Après ça, bon, bah, j'ai la dinde, hein, avec une farce au marron. Et j'ai aussi, avec ça, je sers traditionnellement des pommes de terre sucrées, des patates douces. Et puis, des palipans, ce sont des petites courges comme ça, vertes. C'est très, très bon, ça. Et je fais aussi des haricots verts avec. Et je fais un jambon rôti avec une purée de pommes de terre pour les gosses.
Ah oui.
Pour manger quelque chose de léger, un peu ça. Après ça, comme dessert, vous avez la mousse au cranberry, le Bermuda Triangle, qui est c'est du chocolat, c'est un triangle de chocolat. Après, on fait des sorbets ou de la glace. Et donc, après ça, j'ai traditionnellement le cake à la carotte. Et après ça, c'est une de mes recettes, je fais le pot de fleurs.
Ah,
alors je prends un pot de fleurs et dedans je mets de la crème anglaise, des amandes et je fais une mousse mocha en dessus pour mettre comme de la terre et je mets une fleur en chocolat dessus. Alors là ils sont contents. Hein.
Il est jeune, il a la trentaine, il paraît encore plus jeune, on dirait qu'il a 17 ans. Il a les yeux bleus et l'air émerveillé de ceux qui ont réussi sans vraiment l'avoir voulu, grâce à leur talent uniquement. Il règne, avec une gentillesse extraordinaire, sur ses chefs de rang, ses serveurs, chinois, portoricains, italiens, français et new-yorkais. Il est coté comme l'un des plus grands chefs actuels de New York, cela ne l'empêche pas d'être resté modeste. Il aime la cuisine, il aime ses clients, il aime son restaurant, il aime New York. Il s'appelle Michel Fitoussi.
C'est vous, non?
Oui. Alors, c'est le coup de feu? C'est l'heure du coup de feu?
Ça va aller, oui, dans une heure ou deux. Hein. 450 réservations. On va essayer de s'en sortir. Hein.
Alors, Thanksgiving, c'est quoi Thanksgiving?
Thanksgiving, vous remerciez les États-Unis pour ce qu'ils vous ont donné tous les ans à cette époque-là. Ce qu'on sert comme nourriture, c'est à peu près comme ce qu'on sert à Noël en France. Et les huîtres, la dinde, la venaison, les saucisses, toutes ces choses-là, les marrons, c'est à peu près c'est la saison d'hiver qui commence. C'est aussi Thanksgiving, c'est aussi ce qu'ils appellent la saison grilling. C'est-à-dire, les décorations arrivent dans les rues avec les arbres de Noël, les lumières, les magasins ont les Pères Noël et toutes ces choses-là. C'est aussi, c'est le premier jour de saison greeting also. Aussi.
Alors Michel Fitoussi, comment fait-on pour devenir un grand chef cuisinier à New York quand on a votre âge? Quel âge vous avez?
Maintenant j'ai 32 ans. Mais je suis arrivé aux États-Unis à 21 ans. À 22 ans, j'étais chef du Palace à New York.
Et comment on devient maintenant chef du Palace à 21 ans?
Il y a beaucoup de... J'ai fait les grands chefs en France. J'ai travaillé avec Augier, avec Alix, avec des grands chefs en France. Et quand je suis arrivé ici, j'étais connu quand même. Et au Palace, il n'y avait personne. Et c'était un... Comment on dit ça? C'était assez difficile. C'était une place que personne vraiment voulait. C'était une place très risquée. Alors personne, aucun chef ou réputation voulait s'aventurer. Moi, je n'avais rien à perdre, donc je suis allé là et ça a marché pour moi. À 22 ans, j'étais le chef du restaurant le plus cher des États-Unis.
Combien? C'était combien?
C'était 150 dollars par personne.
Pour manger quoi?
Il y avait 12 plats.
12 plats?
12 plats, il y avait caviar, il y avait truffes, foie gras, tous les grands. C'était pas vraiment cher, mais aux États-Unis, ils n'avaient jamais vu. En France, il y avait ces prix-là, mais pas aux États-Unis, c'était pas... Le plus cher était Lutèce à 50 dollars, on était 150 dollars.
Plus cher.
C'était encore beaucoup plus cher, c'était différent.
Restaurant pour milliardaires?
Un peu tout. Il y avait des gens qui venaient là avec une credit card, ils payaient ça en 2 ans.
Ils avaient pour un manger peu une fois.
Ouais, on faisait des dîners à 500 dollars, on a eu deux maçons, une fois ils sont venus comme ça, avec crédit de carte, ça fait 1000 dollars à deux. Les vins étaient chers, tout était... Enfin maintenant c'est différent, ici c'est plus un restaurant normal.
Les New Yorkais sont gourmets à votre avis?
Ils sont beaucoup plus éduqués maintenant. Ça fait 9 ans que je suis aux États-Unis et il y a un grand changement. Il y a un grand boom dans la nourriture aux États-Unis. Et vous serez surpris de reconnaître que les gens connaissent. Si en France, on imagine l'Américain, c'est le ketchup. Aussi, c'est le ketchup. Mais ils savent beaucoup plus manger qu'avant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de restaurants français. Et tout le monde travaille. Tout le monde a du travail. Donc, c'est qu'ils apprécient la cuisine. Aussi, ils vont beaucoup en France. Particulièrement ces deux dernières années que le franc est si bas. Comme cet été, on a eu beaucoup moins de business cet été parce que tous les Américains étaient en Europe.
Pour manger.
Et ils mangent aussi. Pas seulement pour manger, mais automatiquement, ils mangent. Et tous les petits restaurants en France sont excellents. Donc, petits, grands ou moyens, tout est excellent. Donc, ils reviennent ici et ils veulent, ils continuent, ils ont touché quelque chose qu'ils veulent continuer à manger.
Et ils mangent comment? Ils apprennent à manger, il paraît qu'ils lisent dans les livres comment il faut manger, comment il faut boire. Ils mangent sérieusement, plus sérieusement qu'en France?
Peut-être oui. Peut-être ils sont plus techniques. Ils sont beaucoup plus techniques parce que c'est comme tout quand c'est quelque chose de nouveau. Donc, quand vous venez juste d'apprendre quelque chose, vous savez tout. Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. After 100 ou 200 ans, les choses vont être un peu plus relaxes. Maintenant, ils sont beaucoup plus techniques. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il ne va pas boire son vin dans ce verre parce qu'il est passé dans la machine à laver.
Non.
Il y a des choses comme ça. Vous voyez, ça, c'est... il a raison dans un sens, mais vous voyez, ce sont des choses comme ça qui sortent, hein, que vous êtes un peu surpris, mais parce qu'il a lu ou parce qu'il a su. Ou parce que, mais non, vous serez surpris que...
Vous n'allez pas me dire que vous lavez vos verres à la main pour 475 couverts?
On ne les lave jamais à la main. On ne les lave pas à la main, les verres, non. Même quand ils demandent, on le nettoie un peu avec un torchon, c'est terminé.
Flame broiled burgers, 100% beef. Whopper, Whopper with cheese. Double Whopper with cheese, Whopper Jr., Bacon Double Cheeseburger, Double Cheeseburger, Hamburger, Cheeseburger, Chicken, White Meat, Ham and Cheese, Whaler Fish Filet, Salad Bar, French Fries, Onion Rings, Apple Pie, Drinks, Shakes, Chocolate Milk Shakes, Vanilla Shakes, Strawberry.
Il y a des cuisines régionales ici, comme à Boston, à la Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Même maintenant, la cuisine la plus intéressante qui évolue, c'est la cuisine de la Californie. Il y a vraiment une vraie tradition qui évolue maintenant. À New York, ça a toujours été les cuisines étrangères. New York est une ville cosmopolite, comme vous savez. Ici, on a la cuisine chinoise, italienne, française, un petit peu allemande, toutes les cuisines de l'Orient. Et à New York, on a toujours aimé tout cela. New York est un mélange de tout. Je ne dirais jamais qu'il y ait une cuisine de New York. C'est très amusant. Et on n'a jamais pu évoluer quelque chose ici parce que New York, c'est vraiment l'endroit fréquenté par les autres. Peut-être que New York a aidé à donner ce qu'on appelle les fast foods ou les junk foods, c'est-à-dire l'encanaillement, la cuisine. On mange d'une façon insolite ici. Je dirais que s'il y a une cuisine new-yorkaise, c'est un mélange fascinant de beaucoup de cuisines étrangères qu'on ne trouve pas peut-être ailleurs autant. C'est-à-dire, même à Paris, on aime la cuisine vietnamienne ou d'autres cuisines, on ne mélange pas. Ici, on mélange tout. Et c'est ça, peut-être, la grande tradition ici.
Steve Roy with you. And here's a Thanksgiving spotlight from Light FM. Every year on Thanksgiving, the town of Plymouth, Massachusetts celebrates that first Thanksgiving feast with a full dress reenactment. The quaintly attired citizens march together to Burial Hill. That's the resting place of the victims of that first dreadful winter back in 1620. Enjoy today's celebration of a truly American holiday. You know how the holiday season can make you feel rushed and hurried? Do as you're doing now. Relax with light music here on Light FM, 106.7 WLTW.
Dix heures du matin, Thanksgiving Day. Le long de Central Park, des milliers de personnes attendent la parade. Les plus petits sont assis à même le macadam. Les plus grands sont venus avec leurs thermos, leurs cookies, leur whisky. En face, dans les gratte-ciel, on aperçoit des nuées de petites filles endimanchées collées contre les fenêtres. Écho de musique militaire, grésillement de haut-parleurs. La foule, émerveillée, trépigne. Apparaissent alors des Donald Duck, des Mickey Mouse, des mini-petites souris portées par des dizaines d'hommes. L'oreille de Donald, la bouche de Minnie, embrasse le 30e étage d'un gratte-ciel. Majorette grelottante, char avec fleurs de plastique fluorescentes, Thanksgiving Parade. L'événement de l'année, retransmis en direct à la télé, puis en boucle sur tous les câbles, toute la journée, toute la soirée.
Mangeur new-yorkais, il mange beaucoup?
Non, justement. Vous voyez, maintenant, la nourriture juste commence à changer. Les gens sont beaucoup plus concernés par le sel. Il faut faire très attention d'être un peu plus léger dans le sel. Ils sont très, très concernés par le sel. Là, c'est la dernière année. Il y a eu beaucoup de publicité contre le sel. Les gens sont très concernés par le sel. Et ils sont très concernés avec les sauces sur le côté. Ils mangent la sauce, mais ils ne veulent pas... Ils veulent juste mettre ce qu'ils ont besoin. Alors vous mettez la sauce sur le côté et ils se servent. Et ça, c'est juste la dernière année. Avant, il n'y avait pas de problème avec ça. Maintenant, même les Italiens, ils font les pâtes, ils mettent la sauce à côté. Et vous mettez votre sauce sur les pâtes. Les gens qui mangent en restaurant, ils n'ont pas faim. Ceux qui ont faim, ils mangent à la maison. Vous voyez? Donc, si les gens viennent au restaurant, c'est c'est pas pour manger, ils viennent pour sortir, c'est beaucoup plus pour quelque chose de social ou pour affaires. C'est, aux États-Unis, tout sort, vous sortez tout des taxes. Si vous mangez au restaurant, c'est un business, et c'est, vous enlevez ça des taxes. Donc vous avez beaucoup, probablement 50-60% de votre clientèle, c'est une clientèle d'affaires, qui mange entre 4 et 5 fois par semaine au restaurant, entre le dîner et le souper. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose de léger, bon, frais, mais léger. Donc ça pour la cuisine française, c'est un petit handicap. Il faut faire beaucoup plus de choses grillées, essayer de mettre des herbes pour mettre du goût, servir des échalotes, des choses comme ça qui font léger, mais bon, frais, mais pas comme dans le temps, beaucoup de sauces épaisses et choses comme ça.
The biggest, strongest, wildest man in the world, where the winner gets $100 and a chance at the grand prize of $3,000.
The Arena, 6206 Fresh Pond Road, Middle Village, Queens, just 5 minutes from the Midtown Tunnel, right off the LIE. They're open Wednesday, Friday, and Saturday. And don't forget the lip sync contest every Friday night at the Arena.
Don't forget, join me, Joe Causey, this coming Saturday night at the Arena as I look for Mr. Arena, Queen's Ultimate Video Dance Club, the Arena. Make it your weekend party place.
Il y a vraiment de tout.
C'est
on
vrai.
On a tout de France 3 fois par semaine. Si je veux de la bouillabaisse, si je veux n'importe quoi qui se vend en France à Rungis, je l'ai ici le lendemain par Telex.
Mais vous avez votre Rungis ici, non?
On n'a pas Rungis ici. Ici, c'est tout séparé. La viande est un endroit, le poisson est un autre endroit. Mais c'est pas comme en France, vous n'allez pas au marché. Vous avez des gens qui vous amènent. La marchandise, ce serait impossible.
Pourquoi?
Avec le trafic. En plus, c'est très dangereux d'aller au marché.
Pourquoi?
Tous les gens qui vont au marché, c'est assez dangereux parce que vous vous faites voler, vous vous faites attaquer. Et c'est très, très dangereux le marché, très dangereux. Sauf particulièrement le poisson et la viande. Il faut connaître aussi, il faut connaître les gens, tout ça. C'est à plus grande échelle. Donc, c'est fait par... Vous avez quelqu'un qui vous représente et qui connaît votre qualité et qui achète pour vous et qui vous amène. Sauf vous dire... vous avez la marchandise qui arrive de cette façon. Donc, ce qui est difficile, il faut savoir les saisons, il faut savoir ce qui est en saison. Parce qu'il n'y a personne pour vous le dire, vous n'êtes pas là pour le voir. Donc, il faut être très au courant du marché. Ça, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi.
Il y a un goût de la viande particulière ici ?
La viande est excellente. Très, très bon. Les Américains, c'est le steak, c'était donc la base de la nourriture. Maintenant, ils sont beaucoup moins sur le bœuf. Mais toute
ils
la viande...
Ils sont sur quoi, maintenant ?
Ils sont beaucoup plus sur le poisson, plus léger. Les salades, les crustacés, qu'on ne vendait pas trop avant, comme le crab meat.
C'est quoi
Le crab meat, c'est une viande de crabe. Ils sont beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de différentes sortes de crabes. Le crab mou, il y a le stone crab, qu'ils appellent stone crab. Stone, c'est pierre. Ces choses-là, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile à digérer. Et aussi, il y a beaucoup de publicité sur le cancer maintenant. Le bœuf est un très grand, très cancérogène, particulièrement cru, bleu ou très saignant.
Comme le veau, pour nous, il y a 10 ans, les campagnes contre le veau, les hormones.
Les hormones, les veaux hormones, voilà. Ici, il n'y a pas les veaux hormones. Le veau est très, très tendre ici. C'est en France, je me rappelle, maintenant ça a peut-être changé, mais il y a 10 ans, le veau, on avait du problème avec le veau, c'était assez dur. Ici, vraiment, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Vous avez tellement de saisons entre l'Amérique du Sud, la Californie, la Floride, le Canada, la France, l'Europe. Vous avez vraiment tout. On a les champignons, j'ai les pieds de mouton, j'ai les cèpes maintenant, j'ai les trompettes de mort, les chanterelles. Tout est de France ou d'Italie. On a les endives de Belgique, on a de Hollande, on a les poivrons. Tout arrive de partout. Le marché est tellement gros, et comme je vous disais avant, le marché américain maintenant se réveille sur la nourriture, et c'est vraiment un grand boom. Tout le monde veut connaître, tout le monde veut manger, tout le monde veut cuisiner.
Hush, little baby, it's only rock and roll, and rock and roll is good for your soul.
Well, did you attend the annual Macy's Thanksgiving Day Parade? You did? Well, you were not alone. Correspondent Richard Davies was out there, too.
There are little kids on broad shoulders as far as the eye can see. The crowds are 10 and 15 deep here in the middle of New York City as the big Thanksgiving Day Parade passes by. And no parade will be complete without floats and, of course, souvenir sellers. There's a fella standing right next to me dressed in a colorful wizard suit who is selling magic wands.
Magic wands here. Don Juan's wands.
Hey, Yvonne Mobley bought one of those. In Detroit, people were out there marching in a parade as well.
More than 500,000 people lined the streets of Detroit today for the city's 58th annual Thanksgiving Day Parade. A two-hour-long spectacle featuring an array of helium-filled balloons, dozens of floats, and an equal number of marching bands, along with 3,000 marchers. But for most people, the real treat was the arrival of Santa Claus, kicking off the start of the holiday season, and of course, the start of Christmas shopping. This is the parade that almost wasn't. 2 years ago, the original sponsors pulled out.
And this, Bud's for you, the weather forecast. Tonight, clear and cold, low around 35, and for tomorrow, sunny, a bit milder, high around 53. We have 42 degrees in Central Park at 3:54. That's information. I'm Bob Slade. Yvonne Mobley, this
gobble,
Bud's
gobble.
For you.
Être sans pensée, presque, à peine, Thanksgiving, action de grâce. Pas besoin, une fois l'an, de faire un massacre de volatiles, une hécatombe de dindons, un holocauste d'abattis autour des tables, arrosées de sauce aux érelles rouges sang, avec garniture de patates douces, de tartes au potiron douceâtre. Pour moi, c'est tous les jours fête, par tous les temps, rue calcinée de soleil, battue d'ouragan, pareil. Je marche, minéral. Je fais ma cure quotidienne d'inexistence, nécessaire pour survivre. Les gaz d'échappement désintoxiquent. Pour se délester de soi, New York est le paradis.
New York même, ce qui arrive, c'est qu'il y a des endroits qui sont des bars où on mange, mais surtout les gens viennent boire. Et qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent les produits de l'étranger. Très récemment, je les connais parce que j'adore les Belges. Et, les Belges arrivent avec leurs endives, mais maintenant ils arrivent avec leurs bières. Et leurs bières sont vendues un peu partout et les bières belges sont fantastiques. Mais ici... je ne sais pas si on boit aussi sérieusement qu'en France, c'est-à-dire... Ici, les gens essayent de s'éduquer. Il y a beaucoup de livres sur la boisson. On comprend les vins différents. On aime les bonnes années du vin français. On aime maintenant le vin de Californie. On aime la bonne bière. Les gens boivent ici en connaissance de cause. Il y a des gens, naturellement, qui boivent un peu trop. Mais pour la plupart, je crois que les gens essaient d'éduquer leur palais, d'essayer vraiment de... Vous riez, mais c'est vrai. Ils essaient de comprendre ce que c'est de bien boire. On dirait qu'il lise Brillat Savarin, parce que Brillat Savarin a beaucoup parlé de ça dans ses préceptes. Et les gens étudient tout ici. Ils sont très sérieux. Ils sont pas aussi superficiels qu'on imagine. C'est-à-dire des gens étudient. Ils vont en France, ils vont dans de pays différents, ils essaient de comprendre ce qu'il faut et ce qu'il faut boire avec quel mets. Alors, c'est vraiment même admirable parce que ici, on a beaucoup de connaisseurs, beaucoup de gens qui étudient sérieusement, je dirais. Beaucoup plus qu'ailleurs, je dirais. C'est-à-dire, maintenant, par exemple, tout est consacré au Beaujolais nouveau. Et je sais que cette année, le Beaujolais n'est pas tellement. Mais ici, c'est très sérieux et on a des soirées consacrées à tout cela, des dîners tout spéciales et tout cela. C'est-à-dire, on prend très ça au sérieux. Les truffes arrivent d'Italie. C'est le moment de la truffe blanche. Et ici, on aime, je crois, les truffes blanches tout autant ou davantage que les truffes noires de France. Et ici, c'est un grand moment pour aller manger des pâtes à l'italienne et boire alors un bon vin italien. Parce que on a découvert les vins italiens ici il y a quelques années. Et il y en a de merveilleux du nord de l'Italie, l'Espagne, Gattinara, etc. Alors, ces vins-là sont maintenant... goûter sérieusement.
Into space atmosphere.
Did you know that there are 487 names of places containing the word pilgrim? 357 containing cranberry, 129 Plymouths and 74 Mayflowers. Clearly, we're a nation devoted to Thanksgiving, and what a tradition it is as we try to duplicate the way it was back in the days when the nation was first suffering from growing pains. We like to celebrate like our forefathers did, except we don't. things were very different way back then. The first Thanksgiving was actually celebrated in 1619 on December 4th, with no frills and definitely no dressing. That date was decreed to be honored to give thanks. But there was little to give thanks for several years because of hard winters and poor crops. But fortunes changed in 1621, and the pilgrims in Plymouth wanted to celebrate the first bountiful harvest in many a year with both feast and prayer. In 1623, July 30th was established as Thanksgiving. The tradition spread, and in 1789, President George Washington proclaimed November 26th as the day of National Thanksgiving. But the first real feast was in 1621, and instead of private family gatherings, it was a big community harvest celebration, and about 140 people took part, including the Indians.
Bah pour Thanksgiving, on se réunit avec tous les amis et on s'amuse. La parade, on y vient tous les ans. Ça fait 16 ans. Chaque année, on s'amuse comme des fous. Nous vivons à Massapequa. C'est dans l'État de New York. C'est à 50 km. Ce qu'on aime, c'est les ballons, les fanfares. Après, on ira chez ma grand-mère, la grand-mère des mômes, de l'autre côté de la rivière, à Brooklyn. De la dinde. De la dinde. Des patates douces, de la purée de pommes de terre, de la tarte à la citrouille. Des tartelettes à hachis parmentier. Tout ça a commencé avec, je crois que c'était Miles Standish. Faisait la paix avec les Indiens et pour dire grâce, il est allé chasser des dindons sauvages. Alors ils ont fait une grande bouffe avec les dindes et les Indiens. Je veux dire avec les colons et les Indiens. Oh, un nouveau ballon. Ah. On avait Donald Duck, qui lui a 50 ans. Mais le ballon, il a au moins 30 ans. Ces ballons, ils font au moins 15 étages. Ils sont immenses. We'll be right back.
grain.
Celles-là sont nourries au grain.
Oh là là.
Vous avez toutes sortes, vous avez différentes classes de turquie. Hein. Mais celles-là sont des bonnes turquies.
Et c'est ça, la c'est la farce.
Ça, c'est la farce. Il y en a là, il y en a là-bas. Il va y en avoir pour. Vous voulez goûter un peu ma farce?
Oui.
Vous voulez manger ou pas? Vous voulez manger?
Non, du
tout. Non, c'est vrai, c'est dans la boue, puisqu'ils en mangent là. Si vous voulez manger avec le personnel, non? Vous voulez? Toute assiette, non? Non? Il dit pas non, lui. Papi, serve me two turkeys here for having the stuffing and
what?
All stuff for Monsieur Damien. Two turkeys, two plates. Let's go. That's good. That's perfect.
Ça, c'est complètement fascinant quand on arrive ici. Il y a des vins qui portent les noms des grands crus français.
Ah oui, ça, c'est le. Ça, faut faire attention à ça aussi. Ça, c'est le. Les vins de Californie commencent à être très, très bons. Vous serez très surpris aussi de ça. Les Américains apprennent très vite. Avec les dollars, ils vont en France et ils apprennent et ils achètent. Et ils font venir des gens très expérimentés aussi, des vignobles français. La seule chose avec les États-Unis, ça va. Il y a beaucoup de marques qui vont pour un ou deux ans et après ils font faillite. Ils disparaissent. Sauf vous avez beaucoup de vins comme ça qui sont un ou deux ans. C'est pas comme en France, très établi, avec des années, des générations. C'est très. Il faut faire très attention avec les vins. Et aussi particulièrement avec les noms, quand ils appellent Rothschild ou toutes ces choses-là. Vous avez un vin Rothschild pour $12, vous voyez, des choses comme ça, parce qu'ils achètent le nom. Et après, avec le nom, ils font une publicité et le vin est vendu. Donc, il faut quand même faire très attention. Mais maintenant, les vins de Californie étaient très chers comparés aux vins français. Maintenant, avec le franc qui est si bas, le vin français revient très, très fort parce que le prix est très, très comparable avec les vins de Californie.
CBS FM, and so Cyndi Lauper has herself another hit song all through the night on 101. 220 with Bill, good afternoon. 41 degrees and sunshine on your Thanksgiving day. Bay Ridge, Brooklyn, for you from Frankie Valley in the year 1975. My eyes adored you.
My eyes adored you. No one ever laid a hand on you, my. Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. In positive
I thought it was all over. Over. Over.
Now brace yourself if you tense, relax. Two, you just working hard for 24 tracks.
If you're close, you can see it.
If you're far, you can feel it. Oh, seeing Crazy Eddie, all the masters of the scratch.
moi, j'aime surtout préparer des canards rôtis. Mais on sait très bien cela en France, c'est-à-dire on a de très bons canards aux États-Unis, à Long Island, il y a le meilleur canard imaginable. Même les Français, les chefs français de cette partie, c'est-à-dire des chefs français qui sont venus vivre à New York, adorent le canard ici. Et surtout pour préparer un bon canard, il faut être sûr que l'intérieur soit tout à fait propre. Il faut le saler, le poivrer. Et moi, j'aime beaucoup mettre des fruits dedans ou des fruits confits. C'est adorable. C'est une recette italienne plutôt de mettre beaucoup de fruits confits. Il faut toujours, toutes les 15 minutes, dégraisser. On met le canard dans le four et on continue à dégraisser pour qu'il n'y ait pas de graisse. Alors, à la fin de la cuisson, si c'est un petit canard, vous pouvez faire ça en une heure ou une heure et demie à la rigueur, si c'est un peu plus grand. Mais on aura un canard qui est vraiment croustillant et merveilleux. Et après, on peut créer toutes sortes de sauce. Moi, j'aime beaucoup le canard Montmorency, qui était un canard aux cerises, que je fais pour mes amis français assez souvent. Le consul général aime beaucoup. Je vais le préparer peut-être au consulat cette année. Et c'est un... on prépare... on fait la sauce avec des cerises... on les appelle les Bing Cherries ici, de grandes cerises merveilleuses. On ajoute, je ne sais pas comment dire le cornstarch. C'est pas une farine, mais c'est un produit qui crée une sauce très lisse et qui n'est pas de la farine. Et je mets aussi dans cela, je mets des morceaux de canard qui se détachent du canard et même les gésiers, c'est-à-dire je mélange et c'est une sauce très très riche. On sert ça avec un riz sauvage. Vous savez que le riz sauvage est très aimé ici. C'est un riz qui vient de l'État de Michigan et on peut servir ça aussi avec des légumes qui sont on peut créer ça avec ou du riz ou des pommes de terre fruits. J'aime tout croustillant et sans graisse. Et avec une sauce très riche, où on peut avoir une sauce à l'orange aussi, qui est très classique, une sauce avec tous les... c'est-à-dire, on peut créer la sauce après avec les fruits confits avec lesquels on a farci. Et c'est absolument délicieux. On peut servir ça avec une salade d'endives, ou même on peut préparer des endives braisées, de la manière classique, avec un peu de beurre et un peu de fromage râpé qui cuit aussi pendant une heure au four. The fun, all the shows A to Z and the facts. What's behind what you see, TV guy? The whole world of TV, that's entertainment.
This week, TV Guide previews Testament. It'll make you think about the future. And Kate and Ally may be the rarest thing on TV. Real women, real friends, and real funny.
So buy TV Guide and read TV Guide. That's entertainment.
The purpose of this record...
France Culture, Nuit Magnétique, Le Voyage Américain, numéro 1. Tarte à la citrouille, pour 8 personnes. 200 g de pâte brisée, 3 décilitres de purée de citrouille, 3 décilitres de crème fraîche, 1 demi-cuillère à café de sel, 8 cuillères à soupe de sucre brun léger, 8 cuillères à soupe de sucre cristallisé, 2 cuillères à soupe de corn syrup, 1 demi-cuillère à café de gingembre en poudre, 1 pincée de clou de girofle en poudre, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, ou 2 cuillères à soupe de cognac ou de rhum. 3 œufs légèrement battus, 100 g de noix. Tapissez un moule à tarte de 25 cm avec la pâte et piquez le fond avec une fourchette. Faites cuire 10 minutes à four moyen. Mélangez les autres ingrédients dans l'ordre. Versez dans la pâte, parsemez avec les noix en conservant les plus belles pour la garniture. Mettez dans le four bien chaud et baissez tout de suite. Vérifiez la cuisson à 30 minutes, vérifiez la cuisson à 45 minutes. Quand la garniture est dorée et légèrement gonflée, la tarte est cuite. Mettez dessus les noix et servez avec de la crème chantilly ou de la glace à la vanille.
Ah, le dessert. Très très bon le dessert. Particulièrement ici. Je vais faire goûter la mousse au chocolat blanc. C'est ce que j'appelle le Bermuda Triangle. C'est du chocolat, c'est très très bon aussi. Je fais une pomme en sucre soufflé et je remplis ça avec une mousse de citron. Non, les desserts sont bien aussi. Vous avez un peu de tout parce que vous avez les Allemands, vous avez les Suisses, vous avez un peu toutes sortes de nationalités ici qui font que chacun a un dessert spécial. Mais ici, c'est très très français.
Et le gâteau à la carotte, le gâteau au potiron.
Ah, c'est spécial. Alors ça, maintenant, on parle de Thanksgiving. Alors là, oui, là, c'est très, très américain. Ça, c'est différent. Oui, ça, nous, on n'aimerait pas vraiment ce genre de pâtisserie. C'est plutôt, c'est plus épais. C'est pas vraiment fin.
C'est lourd.
C'est différent. C'est un peu lourd. Parce que toutes ces traditions viennent des fermiers, viennent des gens en chariot. Oui, ce sont des recettes. Plus fermière, rien de compte là-dessus, mais si on compare ça à notre fine pâtisserie au beurre en France, c'est une très grande marge. C'est plus campagnard. Comme j'essaie d'arranger un peu à ma façon, je mets un peu de la crème anglaise, et de la glace à la vanille, des choses comme ça pour l'alléger un peu. Mais traditionnellement, aujourd'hui, je vais servir par exemple aussi la mousse au cranberry, on n'a pas ça en France.
C'est quoi?
C'est amer. Le cranberry, le grain de cranberry est à peu près 5 fois plus gros que ça. Et c'est une peau très épaisse et c'est très amer. Très amer, il faut avoir un goût.
C'est dégueulasse.
Non, c'est pas vraiment. C'est comme tout, il faut avoir un goût développé pour ça. Moi, j'en mangerai pas, mais donc les gens aiment ça, quoi, ça. C'est traditionnel, hein. Alors par exemple, aujourd'hui, j'ai le potiron, le gâteau potiron. Alors là, ma femme a donné la recette de sa mère. Donc, c'est
votre
très spécial.
Est américaine.
Ma femme est américaine.
Ah.
Ma fille est américaine aussi, née à New York, il y a deux ans et demi, Nadine. Et donc, ça, c'est différent, oui.
Et votre femme, vous l'avez rencontrée comme cliente dans
vos restaurants ? Non, non, je l'ai connue sur la plage.
Ah.
les muscles français.
There's a fine line.
Ce qu'il y a, c'est le dollar. En France, on fait un restaurant, c'est plus facile. Ici, c'est le dollar. Ils font des restaurants, 2-3 millions de dollars, pom, pom, deux ans après, c'est fermé, c'est fini. Et c'est surtout les restaurants, c'est investi. Des gens, ils arrivent avec des millions, ils investissent et ça marche pas, ils enlèvent des taxes. Ça. C'est fait par des grands. C'est pas comme en France que vous avez votre père, il est dans la profession, et puis autrement, vous êtes un chef et vous mettez vos sous de côté, et puis vous allez. Non, ici, vous êtes bon, vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon, mais vous avez des connexions. Et vous avez de l'argent derrière et vous ouvrez votre restaurant et c'est une corporation. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, vous fermez, vous ouvrez ailleurs. Donc il y a beaucoup de restaurants à New York, un an, deux ans, trois ans et ça disparaît. Il y en a d'autres, qui sont là pour beaucoup d'années, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est très difficile à New York de rester.
Et vous avez des célébrités qui viennent ici dans votre restaurant?
Ah oui, hier on a eu. Qui c'est que j'avais hier? Comment ça s'appelle? What was the name I have yesterday here, Gary? Table 22 there.
The celebrity? Yeah. Carol Burnett.
Carol Burnett was here yesterday. Yeah. Qui c'est qu'on a là? On a un peu tout le monde ici. Il y en a beaucoup. Jacqueline Aziz was there. Elle était là il y a. Là. Là.
She was there. No, she was there.
Là, there, yeah. T'as vu un peu quand je te dis que c'était là? De dos, je l'ai vu. Je te le dis alors.
Et Jacqueline Aziz.
Ah, on n'a pas dit. Pas de publicité là-dessus. Il était très bien, très très bien. On a beaucoup
beau
de vedettes. Il était beau et riche. On a beaucoup de vedettes américaines de théâtre, de cinéma, de pianistes.
Frank Sinatra?
Non.
Non.
Non, Frank Sinatra, il va plutôt au cirque. C'est plus flamboyant qu'ici. Ici, c'est plus sérieux comme
c'est
affaire.
C'est genre chic ici.
C'est plus sérieux. Plus sérieux, chic ou pas chic, c'est plus sérieux quand même.
Vous allez chez vos petits camarades au restaurant de temps en temps, ici à New York?
Ah oui, j'ai trouvé une grande communauté française, très fraternelle. Il y a toutes les semaines, toutes les deux semaines, il y a beaucoup de clubs, il y a trois clubs de français. Aussi, il y a les maîtres cuisiniers de France, il y a l'Académie culinaire de France. C'est très sérieux, il y a toujours des meetings, des dîners, il y a toujours. Les Français se tiennent très très ensemble ici.
Et vous quitteriez New York pour
non,
aller...
non.
Why?
Pas de question, non. Non, mais c'est trop facile ici, vous voyez, c'est trop. Plus ici, il n'y a pas de différence de classe.
C'est vrai ça.
C'est quand je suis moi, quand je partais en France, un cuisinier, c'était rien du tout. C'était même pas la peine d'en parler. Maintenant, les cuisiniers sont un peu plus reconnus puisqu'ils se sont rendus compte que c'était le moment de leur donner un peu des médailles parce qu'ils n'allaient plus en avoir. Mais c'était juste quand je partais, les cuisiniers, c'était pas une classe favorable. Et tandis qu'aux États-Unis, non seulement que les cuisiniers sont une classe très enviée, mais en plus de ça, il n'y a pas de différence de classe entre les docteurs, les plombiers, toutes ces choses-là, les banquiers. Tant que vous faites de l'argent, ils veulent. Que ce soit à ramasser les poubelles ou à être docteur, ça n'a pas de différence. C'est ce que j'apprécie beaucoup ici. Ce qu'ils apprécient d'abord, c'est la valeur humaine et si vous avez de l'argent. Et par exemple, en France, tout dépend quelle voiture vous avez, c'est très beaucoup. Ici, aux États-Unis, vous avez n'importe quelle voiture, ils s'en foutent. Parce que tout le monde peut s'acheter une voiture. Vous allez, vous prenez du crédit, vous voulez une voiture à 40 000 $, vous allez payer pour toute votre vie, mais si vous voulez, vous la payez. Avec 5 000 $, vous pouvez acheter une Mercedes. Et vous mettez crédit dessus et crédit, et vous avez une Mercedes. Donc ça enlève beaucoup de la différence de classe. C'est comme je vous disais au palace, si quelqu'un voulait manger pour 150 $, il pouvait venir manger, puis après il met deux ans à payer, mais c'est ce qu'il veut faire. Tout le monde peut faire une fois dans sa vie quelque chose d'extraordinaire comme ça. Donc ça enlève beaucoup la différence de classe. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup ici.
Thank you. are you waiting for now?
Oh, is it on?
Est-ce que je peux parler
people
maintenant?
Come to watch
eh bien,
the tree
les gens viennent regarder l'arbre
à
Rockefeller Center parce que c'est la tradition. C'est le plus grand arbre dans la ville de New York. Et comme je vous dis, c'est une tradition chaque année. Ils viennent ici à Rockefeller Center où sont tous les magasins. Et ils viennent voir la cérémonie, l'arbre qui s'allume. Et après, ils dînent dans un restaurant dans la région. Et puis, ils regardent dans les magasins. C'est le meilleur endroit à New York pour faire ça. Et c'est pour ça qui viennent chaque année.
It's the only place where you can find a tree, a Christmas tree in New York.
Non, ce n'est pas le seul endroit où vous trouvez un arbre, mais c'est le plus grand, le plus beau, et c'est le mieux décoré. Et le jour d'avant, ils sont allés à Park Avenue voir les arbres sur 91st Street. Il y a une grande fête, ils chantent des cantiques de Noël, et une fois, tous les arbres se sont allumés tout en même temps. Et après, ils viennent ici à Rockefeller le lendemain, et là, l'esprit de Noël nous vient.
Vous savez ce que vous allez faire le 31 décembre?
Le 31 décembre, vous savez, c'est toujours un moment très important. Moi, je le sais. C'est consacré la veille du Nouvel An ici aux États-Unis. Les gens sont très mélancoliques, nostalgiques. Les gens intellectuels, très souvent, ne sortent pas du tout. Mais moi, je vais par prédilection à l'opéra. Et je n'ai plus ma mère, mais ma tante vit. Et je vais avec ma tante, mon oncle et des amis écouter Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, qui sera sûrement merveilleusement bien interprétée par la grande chanteuse Jessie Norman. Et j'ai pris mes billets déjà. Moi, j'adore l'opéra à New York parce que c'est un petit peu la tradition musicale. Il y a toujours un spectacle de très grande valeur, le 31. C'est plutôt un public bien, un public bien.
Ça veut dire
de vieilles personnes qui adorent l'opéra, qui y vont toujours, c'est leur vie. Il y a si peu de traditions qui restent. Alors, l'opéra, c'est une tradition valable.
Un rétro. Vous aimez les traditions?
Pas forcément, mais il y a certaines choses que j'aime. Et je ne suis pas du tout contre l'opéra, j'adore l'opéra. Je crois que l'opéra de New York ne vaut pas l'opéra d'Europe, c'est-à-dire la Scala, Paris, Bayreuth, Vienne, infiniment supérieure à New York. Les meilleurs chanteurs ne viennent même pas ici, parce qu'on ne paye pas assez bien, on le sait. Et aussi, il y a certaines personnes qui sont des vedettes ici ne pourraient jamais être des vedettes en Europe. Mais quand même, certains opéras sont joués magnifiquement, comme Fidelio, Ariadne auf Naxos, que j'adore. C'est-à-dire, c'est un plaisir d'y être, de finir l'année d'une façon adorable, de manger très bien, de boire une bonne bouteille de champagne, d'aimer cette dernière journée, de bien commencer l'année. En général, le jour de l'an, vous savez, c'est pas comme en France, c'est pas le jour de l'an qui compte ici, c'est plutôt la veille. Et il y a beaucoup de réveillons, et beaucoup de gens qui sont... Une fois, j'ai passé ça dans le Russian Tea Room, qui est un grand restaurant russe ici, pas tellement russe maintenant, plutôt cosmopolite. Mais c'était très agréable de passer. Il y a toujours un spectacle, des gens bien habillés, des gens élégants. Et c'est vraiment très agréable de sortir ainsi. Très difficile de rentrer parce que la circulation à New York est toujours meurtrière, mais le jour de l'an et pendant les grandes vacances à New York, on peut pas bouger. Il faut plutôt marcher parce que rien ne fonctionne. Les taxis ne peuvent pas circuler. C'est vraiment la pagaille. Mais la pagaille, c'est la vie de New York.
Kugeln werde durch die Clubs ziehen und es kommt mir immer vor, als wäre ich die Night Club Queen. Das ist die reinste Wahrheit und ich schwöre siebenfach, New York, ich will ein Penthouse haben, direkt unterm Dach. Und nach meiner Show, da bin ich immer so froh und alle gehen mir in die Disco.
New York, le voyage américain, numéro 1. Jean-Paul Herbert, Claude Rossi. Aujourd'hui, le mangeur américain, Alain Claudel, Jean-Claude Charles, Josette Collin, Laure Adler.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 décembre 1984. À suivre.